Vendredi le 28 février, veille d'un rare 29, mais lendemain d'une moins rare défaite du Canadien à domicile. Ici Mario Langlois, bienvenue à Sortie de zone, le balado de la presse et du 98.5. Guillaume Lefrançois, bonjour.
Salut Mario.
Alexandre Pratt, bonjour.
Salut.
Et Martin Maguire, qui est au complexe d'entraînement du Canadien à Brossard. Salut Martin.
Bonjour à vous.
Alors, lendemain de défaite du Canadien à domicile, mine de rien, une 22e défaite contre seulement 13 revers. Une défaite qui ressemble à bien d'autres en ce sens que le Canadien a pris les devances. Et c'est ainsi que Claude Julien s'exprimait dès après la rencontre.
C'est quoi la solution? Tu fais quoi avec ça?
J'ai aucune idée, Chantal. On est capable de jouer 40 minutes, on n'est pas capable d'en jouer 60. On encourage les joueurs à jouer 60 minutes. On le dit de jouer... C'est sur le bout des pieds, pas sur les talons en troisième période. Assez jouer une troisième comme on a fait les deux premières, puis mais ça n'arrive pas. Puis, tu sais, à un moment donné, tu regardes les buts qu'on donne, on est sur les talons, puis alors, tu sais, on peut pas jouer pour les joueurs. Puis à un moment donné, il faut que la décision vienne de eux, là, d'arrêter de dire qu'ils manquent de confiance, etc., puis de commencer à jouer de la bonne façon. Il n'y a rien d'autre que je peux dire parce que on essaie de demander aux joueurs de jouer 60 minutes de la même façon.
Guillaume, comment interprètes-tu l'humeur de l'entraîneur après cette autre défaite de la même façon que bien d'autres précédentes?
Bien, ce que je trouve particulier, puis je pense que Claude Julien le fait de temps en temps quand il est à bout, c'est de si on veut, de séparer des joueurs, tu sais, de dire que c'est les joueurs, c'est eux, puis tu sais, comme un peu si c'était pas la même équipe. Je sais pas, je trouve ça un peu particulier comme façon de faire. L'autre chose aussi, c'est que tu sais, souvent des entraîneurs après des mauvaises performances, malheureusement j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais je sais que je l'ai déjà entendu des coachs qui disent ben regardez, personne l'avait, puis ça part des entraîneurs, on doit tous se regarder, puis tout ça. Puis souvent, c'est niaiseux, puis c'est juste un petit bout de phrase, mais des fois, je trouve qu'il manque ce petit bout de phrase-là aussi dans les réponses de Julien, où finalement...
C'est pas sa faute.
Ben, c'est ça, tu sais, c'est souvent les joueurs, mais, tu sais, même si ça veut rien dire, là, même si c'est juste un petit bout de phrase ou rien, mais je pense que des côté image, là, ça ferait peut-être du bien de temps en temps, là, de juste sortir un petit aveu comme ça, là.
Moi, je pense qu'il sent que c'est la fin. Il vient de voir, je pense qu'il est découragé, il est un petit peu écœuré même, je dirais. Il vient de voir quatre vétérans partir, pas vraiment être remplacés par des gars de la Ligue américaine. Il sait qu'ils ont eu deux séquences de 8 défaites consécutives, il sait que présentement aussi c'est difficile. Il a demandé des renforts toute l'année, il en a eu un petit peu en scandale, puis il y a eu quand même Kovalchuk, là, je le note, mais tu sais... Je suis convaincu en fait qu'il sait qu'à la fin de l'année, il reviendra pas. Je pense qu'on est sur ses derniers matchs, en fait. Il va se rendre jusqu'à la fin de l'année, mais je pense qu'à la fin de l'année, il va servir de bouc émissaire pour l'équipe.
Martin?
J'en serais extrêmement déçu si c'était le scénario que Alexandre nous décrit, honnêtement, parce que moi, je persiste, là, je pense que Marc Bergevin, il l'a pu, cette carte-là. Bon, mais après avoir dit ça, moi, je sens de l'exaspération de la part de Claude Julien. À titre d'exemple, dans cet autre match où l'équipe a échappé l'avance hier, à un moment donné, dans une mise en jeu en territoire défensif, sur les 5 joueurs qui avaient été placés sur la glace pour prendre cette mise en jeu, pour qu'on puisse recommencer le jeu, il y en avait un seul sur les 5 qui avait pas été au balotage, c'était Jake Evans. Les 4 autres avaient été au balotage, puis certains d'entre eux plus qu'une fois. Alors, je pense qu'il y a de l'exaspération de la part de Claude Julien. Tu sais, la ligne est très mince entre mettre ça tout sur le dos de tes joueurs, faire attention pour pas que les gens pensent que tu mets ça sur le dos de ton gérant qui te fournit pas les chevaux pour aller aux courses. Tu sais, lui, il danse constamment sur cette ligne-là. Puis ça, c'est comme ça depuis le début de la saison parce que le Canadien a pas de ressources. Puis je pense que Bouchard en bas, à Laval, avec le Rocket, c'est la même affaire. Tu sais, s'il se promène des joueurs un peu partout puis qu'il y a pas une journée qu'on reçoit pas un courriel officiel du Rocket de Laval puis qu'il parle d'un mouvement de personnel, c'est parce que l'équipe a de la difficulté à trouver les joueurs pour gagner aux deux niveaux. Alors moi, je pense que les deux coachs, là, ils sont constamment sur la ligne puis à un moment donné... Un humain, là, il finit par débarquer de la ligne.
Tu sais, qu'on me comprenne bien, là, moi, j'ai défendu Claude Julien toute l'année. Ouais. Je continue de croire que c'est vraiment un bon coach. Puis les coachs vont souvent nous dire que regardez l'état de préparation d'une équipe, la façon dont elle sort au début d'un match. T'sais. le Canadien, force est d'admettre, sort vraiment presque tout le temps fort.
Tout le temps.
Et c'est, donc, pour moi, c'est quand même signe d'une bonne préparation. Le plan de match est le bon, les joueurs arrivent en forme au début du match, et ça s'écrase à la fin de la partie. T'sais. C'est pas juste la faute de Claude Julien, mais je vois vraiment pas comment il peut s'en sortir à la fin de l'année après avoir reconnu autant d'insuccès pendant la saison.
Ouais, je pense pas que Vincent Lecavalier me disait récemment dans une entrevue où je comparais la situation que Kovalchuk a vécue avec ses quelques semaines à Montréal à ce qu'il a vécu après son désastreux séjour à Philadelphie, à Los Angeles. Il dit, tu deviens pas un mauvais joueur de hockey du jour au lendemain. Et on a vu Kovalchuk sous un meilleur jour ici. Je vais appliquer ça à Claude Julien. Je pense pas que tu deviens...
Tu deviens pas
un mauvais coach du jour au lendemain. Mais et c'est difficile sur les éléments que vous avez tous soulevés là, ça s'en va dans tous les sens dans nos têtes quand on se remet à réfléchir à ça, parce que il y a tellement de raisons pour lesquelles on pourrait pointer très sévèrement Marc Bergevin. Honnêtement là, dans tous les cas, il y a assez de munitions pour qu'on... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait renversé que quelqu'un perde son emploi? Marc Bergevin, Claude Julien. Puis je vous mettrai pas la pression de répondre. Vous répondrez si ça vous tente. Moi, je pense que non. Tout le monde va dire, ben, c'est normal. Ça fait tant d'années qu'il est là, etc., etc. Or, il semble qu'on s'en va vers une destination où Marc Bergevin est encore le capitaine du navire, à moins que Jeff Molson ait changé de fusil d'épaule récemment. Mais il semble, quand on voit Marc Bergevin s'exprimer sur l'estrade il y a encore quelques jours, on le sent parler au nom, en tout cas c'est peut-être moi qui le ressens comme ça, au nom de la direction, pas au nom de Jeff Molson. Mais tout le monde pourrait être pointé du doigt, puis tout le monde mériterait à la limite de payer de son emploi pour les déboires actuels. C'est pour ça que ça devient mêlant de viser la bonne cible, parce que c'est peut-être un coup de balai à la limite.
Non, mais en fait, il va avoir des coupables à la fin d'année, c'est certain. L'équipe va finir probablement la saison avec 15 points de moins que la saison dernière et le même noyau de joueurs. Tu sais, on disait autant Julien est pas un moins bon coach qu'il était l'année dernière. C'est la même chose, à mon avis, pour les joueurs. Les joueurs sont pas moins bons. Mais à un moment donné, quand tu joues des matchs qui comptent plus au classement général, ben, je m'excuse, t'en donnes pas autant. Puis tous les anciens joueurs vont
dire... C'est lourd.
Ben, c'est la même chose pour l'entraîneur aussi. À un moment donné, là, tu te prépares pour des matchs qui veulent plus rien dire. Tu sais, puis à un moment donné, en troisième période, là, tu tires de l'arrière par deux buts soudainement. Tu sais, je pense que tu dois en avoir, honnêtement, là, plein ton casque.
Je persiste et signe en vous disant, messieurs, que c'est un problème de personnel. Le Canadien se fait remonter souvent parce qu'ils ont de la difficulté à gérer la pression mise par l'adversaire dans leur territoire. C'est souvent ça qui arrive. Encore hier soir, c'est exactement ce qui est arrivé. À un moment donné, là, quand tu défends là, dans la Ligue nationale, quand tu défends, puis tu dois faire face à une équipe qui attaque à quatre, parce que quand une équipe attaque puis tire de l'arrière par deux, ça attaque avec un défenseur puis trois attaquants. Il faut que tu sois réveillé, il faut que tu connaisses tes options, il faut que ça devienne naturel. Et chez beaucoup de joueurs du Canadien, tous ces éléments-là sont loin d'être naturels. On les place dans des situations où ils ont pas d'affaires, littéralement, puis c'est ce qui arrive. Puis là, après ça, on regarde le gardien de but, puis on demande au coach... Hey, le gardien de but, tu es fatigué, tu penses? Ben, c'est sûr qu'il est fatigué un petit peu, parce que là, la façon que ça joue en avant de lui, surtout que sur le banc, le gardien de but qui est là, il est pas capable de prendre le slack, comme on dit en bon québécois, il est pas capable d'aller en prendre une, parce que s'il s'en va dans le filet, il va perdre. Faut le voir dans les entraînements, puis faut savoir que Lindgren, là, non, c'est pas du tout la solution. Alors, à un moment donné, je pense que tout le monde est rendu au bout de ce qu'il est capable de donner. Là où je te rejoins, Alexandre, c'est que ça vient qu'à affecter l'aspect mental. Tu sais, ils ont pas été hués presque pas, peut-être même pas une seule fois cette année au Centre Bell, puis c'est peut-être une de leurs pires saisons à domicile depuis 3-4 dernières années. Alors, c'est pas la nervosité causée par la foule, c'est exactement un problème de personnel sur la glace.
Je suis content que tu soulignes cette même foule qui a ovationné à tout rond Carey Price après sa pire année en carrière. Mais, non, mais il faut le dire, ça, tu sais.
C'est ça, absolument. Puis ça montre justement que cette pression-là dont on parle souvent de jouer à Montréal, de jouer au Centre Bell, ben c'est pas toujours le cas. On dirait que c'est un peu un stéréotype que la couendure, là. Mais tu sais, puis même en avantage numérique, là, il y a eu souvent, tu sais, on le sait, là, l'avantage numérique a pas été très constant, disons, cette année. Puis les mauvais soirs, comme vous dites aussi, là, j'ai l'impression que ça huait plus par le passé. Donc oui, je pense qu'on en vient plus au aux explications de personnel. Tu parlais des quatre joueurs au ballottage. Une autre façon de l'illustrer pour le match d'hier, c'est que les trois joueurs du quatrième trio et les deux défenseurs du troisième duo, Osner, Fallen, ces cinq joueurs-là ont joué plus de matchs à Laval qu'à Montréal cette année.
Voilà.
Donc essentiellement, tu avais un trio puis un duo de Ligue américaine contre une formation.
Mais même les réguliers là, commencent à être fatigués. Écoutez, Dano, ça fait 18 partie de suite qui n'a pas marqué de but, je pense.
Hier, il y avait une chance après l'autre.
Puis Nick Suzuki, qui est en deuxième centre, qui continue de faire des points, est quand même moins 8 à ses 10 derniers matchs. Ouais,
Depuis 2-3 matchs, ça va moins bien.
Il est un des rares dans le différentiel négatif là, depuis 10 parties. Ce sont tes deux premiers centres. Donc, tu sais, oui, il y a de la fatigue du côté de Carey Price. Il y a aussi de la fatigue du côté de tes deux premiers centres.
Armia et Lekkonen sont au ralenti aussi.
C'est très difficile.
Et ça devient très lourd. La réponse de Claude dans l'extrait qu'on a fait jouer tout à l'heure, c'est Chantal Maccabé qui pose la question. Puis les premiers mots de la réponse, c'est « je le sais pas, Chantal ». Puis je trouve que trop souvent, Claude Julien a eu l'air d'un homme à court de solutions cette année, de plus en plus frustré, et je te rejoins dans ton opinion, Guillaume, et comme c'est jamais de la faute du coach, puis je veux bien croire, effectivement, mais à la limite, des fois, quand tu copes dans le chaloup puis qu'il y a de l'eau, faut que tu montres que tu copes avec tes joueurs. Et je dis pas que ces vétérans sont en rébellion contre lui, mais c'est parce que les coachs qui s'entendent bien avec les vétérans, là, c'est pas mal la norme dans la Ligue nationale de hockey, c'est que pour faire fonctionner...
Ça fait partie de la description de tâche.
Un exploit d'avoir l'adhésion. Mais par contre, ça te prend l'adhésion de tout ton monde. Mais oui, Martin, je t'écoute.
Mario, je te pose la question. Qu'est-ce qui te permet de croire qu'il s'entend pas avec ses vétérans?
J'ai pas dit qu'il s'entendait pas avec ses vétérans. J'ai dit c'est la norme de s'entendre avec ses vétérans. Et il s'entend avec ses vétérans, je crois. Mais pour gagner, faut que tu t'entendes avec tout ton club. Tu sais, tu peux pas te servir exemple de Suzuki comme souffre-douleur, puis je parle pas des médias, là, à l'abri des médias ou quoi que ce soit, ou d'une couple de gars plus fragiles dans l'équipe pour faire passer ton message. Pas de même que tu vas aller chercher. Il faut t'aller en chercher 20, même s'ils sont moins bons. On a vu des équipes débrouiller avec des équipes pas toujours talentueuses, mais capables de les dédier dans un système, puis on voit pas ça chez le Canadien. Lui-même dénonce le manque d'engagement de ses joueurs, et ça me dérange qu'il s'exclue, mais c'est correct. Puis Marc Bergevin, dans son discours, les gars sur l'estrade, pointait beaucoup plus en direction des joueurs, lui aussi. Ouais. Mais à un moment donné, les joueurs sont toujours le problème. C'est parce qu'il haïssait son club, Marc Bergevin, qui a pesé sur reset également. Mais ça manque peut-être d'amour là-dedans également. Je sais pas où ils sont trop blasés pour avoir un regard neuf. Peut-être qu'il est temps qu'on change de monde.
Tu sais, je lui ai posé la question directement au point de presse. C'était à la fin, là, fait que c'est passé un petit peu plus dans le beurre. Mais je lui ai demandé à Marc Bergevin, est-ce qu'il y a un problème d'attitude? T'sais, il y a un problème
d'attitude. Oui, j'ai aimé ta question.
Mais là, il y en a-tu un problème d'attitude pour ce problème? Mais il me dit non. Mais je dis, OK, mais de commitment. Hey, là, j'ai réécouté le tape plusieurs fois après, puis là, il est plus évasif, tu sais, puis il dit, oui, on a eu quand même des problèmes avec ça, tu sais, il parlait des jeunes, on a eu des problèmes avec ça. Pour revenir un petit peu à ce que Martin disait, moi, je pense qu'il s'entend bien avec ses vétérans, ça a moins bien été avec les jeunes, mais il y a peut-être un problème aussi de commitment, il y a peut-être des jeunes qui s'attendaient à avoir du temps de glace tôt dans la saison, à cause de leur statut, choix de première ronde, MVP au championnat du monde.
Puis, non, mais... Les arrêts de Ryan Poehling,
absolument, là, totalement.
Honnêtement, messieurs, les jeunes dans un vestiaire où t'as des gars comme Weber et Price, là, ils suivent.
Oui.
C'est aussi simple que ça. Ouais. Ils peuvent babouner rendus chez eux, là, puis avec leur blonde, puis en parlant avec leur agent au téléphone, mais honnêtement, ils suivent habituellement.
T'sais, Cale Fleury a quand même ramassé un petit peu Claude Julien après avoir été mis sur le banc après une défaite de genre 9-1 contre les Bruins, il savait pas vraiment pourquoi il était souvent. Il a trouvé qu'il avait bien joué, je pense qu'il a fini à moins 3, puis avec un Corsi de
10%. Et il semble que les gars se retrouvent à Laval et sont difficilement gérables au début, parce que Joël pensait qu'il était arrivé. Joël n'a pas été ben, a pas joué à cachette avec
Joël,
ça.
Joël, il l'a dit à propos de Ryan Poehling, absolument.
Ça crée des problèmes de perception de coach envers les joueurs, puis de joueurs envers le coach, puis du DG, puis même de l'organisation, peut-être, Martin.
Quand un joueur sait pas pourquoi il a été placé au banc, un gars comme Cale Fleury, puis qu'un gars qui se retrouve à Laval, puis sait pas pourquoi qu'il est là, peut-être que c'est parce qu'on lui a donné une job qu'il avait pas d'affaires à avoir. Peut-être parce qu'on lui a donné une job que normalement, ça aurait dû être pris par un gars qui aurait dû être repêché il y a 4-5 ans puis qui devrait être greffé déjà au noyau. Moi, je me souviens, là, quand, au début de l'année, quand on a décidé qu'on gardait Fleury et Suzuki avec le grand club, je suis allé voir Shea Weber, puis je lui ai demandé, comment ça s'est passé, toi, quand Barry Trotz t'a dit, tu fais le club? Et il m'a regardé avec ses yeux d'avoir envie de m'envoyer dans la quatrième rangée des gradins, là. Puis il m'a dit, j'ai jamais eu ce meeting-là, moi. Ah! Tu t'as jamais eu ce meeting-là? Puis il m'a gelé un petit peu, là. Il dit, non, Il dit, moi, à un moment donné, j'ai fait up and down, Ligue américaine, Ligue nationale, puis à un moment donné, il dit, la première affaire que je me suis aperçu, c'est que il me gardait parce que je faisais assez bien pour qu'il me garde. Alors, tu sais, là, on parlait tantôt des vétérans, des jeunes. Ben, s'il y a des jeunes qui pensent que parce qu'on leur dit qu'ils commencent l'année à Montréal, qu'ils doivent avoir plus de temps de glace, ben, ça veut dire qu'on n'a pas repêché bon parce qu'ils n'ont pas un problème d'attitude. Parce que normalement, une bonne organisation est supposée donner la place aux jeunes quand le jeune a fait la démonstration claire qu'il peut être meilleur qu'un vétéran.
Puis là, on entend parler qu'on donnerait un essai à Caulfield aussitôt sorti de la NCAA. Je peux pas croire qu'on va répéter le même scénario.
Oubliez ça, c'est clair, ça arrivera pas. Moi, je suis convaincu que l'année prochaine, ils vont le laisser dans la NCAA.
Ben, c'est ça. Puis de toute façon, je pense que le Canadien a intérêt à éviter justement des erreurs qui ont été faites par le passé. Évidemment, Kotkaniemi est le cas le plus évident. S'il y avait eu un troisième centre, si le Canadien avait eu trois centres qui avaient de l'allure, ben, je pense pas que Kotkaniemi commence cette saison-là à Montréal. Je pense qu'il aurait été en Finlande. On peut même remonter à 2017, Victor Mété. Comment Victor Mété, 19 ans, 162 livres, tout mouillé avec du change dans ses poches, s'est retrouvé partenaire de chez Weber en début de saison. C'était une autre preuve que finalement, on n'avait aucune solution, on n'avait pas le personnel. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On a précipité un jeune.
Mais c'est pour ça que j'ai défendu Claude Julien toute l'année, puis là où je rejoins...
On l'a tous défendu.
C'est ça, mais là où je rejoins d'ailleurs, où je rejoins Martin, c'est quand il dit, il y a des joueurs qui n'étaient pas dans la bonne chaise dès le début de l'année, notamment à Califleury, mais quand Claude Julien a demandé de l'aide au début de l'année, là, au début de l'année, tu demandes un cri du cœur. Quand même, là. C'est rare qu'on voit un coach faire ça. Là.
Mais écoutez, Claude Julien répondre à une question de Stu Cohen hier, parce que là, on a entendu quand il parlait des joueurs. Là, c'est de la question qu'il n'a pas aimé, puis je veux vous entendre commenter ensuite.
Well, do you think Carey Price might be starting to get worn down a bit with the workload? I'm not even going there. He's had a break. Guys, ask questions that make sense. To me, he's had a day off between every game, and he doesn't skate in the morning, so he's got nothing. He made some unbelievable saves tonight, so we're going to look at one goal that went through him and say, is he tired? How about the saves he made? Come on, guys. Really.
Donc, est-ce que j'ai besoin de traduire, en tout cas peut-être un peu pour dire, j'irai même pas là les gars, posez donc des questions qui ont du sens, parlez-moi donc de ces bons arrêts, on le repose entre les matchs, il est frais dispo, là vous me parlez d'un but qui s'est faufilé, puis là vous allez me dire qu'il est fatigué, alors que vous me parlez pas des arrêts exceptionnels qu'il a fait, mais je reviens à la réaction d'indignation de Claude sur la question. Est-ce que c'était une question déplacée, les gars? Vous êtes tous journalistes, là?
Non, c'était pas du tout déplacé. Je pense qu'à tous les matchs, dernièrement, pis ça enlève rien à ses bons moments. Ça enlève rien. Il a fait une coupe d'arrêt quand même incroyable hier. Aucunement question de lui enlever ça. Mais à chaque match, il y a une ou deux petites erreurs mentales, des buts qui rentrent, qui ne devraient pas rentrer. Puis ça, à mon avis, c'est peut-être justement la preuve d'un gardien qui n'est pas 100% frais. Tu sais, je vous ai dit, on le repose entre chaque jour, puis tout, mais... Je pense pas que jouer juste des matchs puis rater les entraînements, je pense pas non plus que c'est une bonne façon de faire. Vous avez une raison pour laquelle toute la Ligue nationale se tourne vers un régime de partage 50-30, même 45-35. C'est parce qu'on réalise que les gardiens sont plus sharp, excusez-moi le mot, mais sont plus au point mentalement, techniquement, tout ça, parce que ils font pas seulement jouer des matchs, ils ont aussi du temps de qualité à l'entraînement, ils peuvent travailler sur des trucs, ils peuvent recharger les piles, puis ben le Canadien fait pas ça. Là.
Ils ont tellement désespérément besoin de lui actuellement, là. Puis ça revient à mon affaire de problème de personnel, parce que moi je suis sûr que si on a un gars comme Curtis McElhinney qui est assis à côté de lui sur le banc, Carey Price en est pas à son 11e départ hier soir. Puis je pense que ce qu'il a essayé de faire, Claude Julien, il a répondu émotivement à la question de notre collègue Stu Cowan, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'il protège le dernier gars qui est capable de lui fournir une victoire de temps en temps. Puis je pense que la réaction a été émotive à cause de ça. Est-ce que toutes les questions se posent? Oui, mais parfois, mon humble expérience de l'affaire dit que les coachs aiment pas se faire poser des questions pour laquelle, eux, c'est une évidence. Sauf que ils comprennent pas que la question, tu connais peut-être la réponse, mais tu vas avoir la réponse pour les auditeurs, pour les téléspectateurs ou pour les lecteurs. Ben, ça, les coachs ont bien de la difficulté parfois à voir ça. Pour la façon dont ils voient les choses, c'est ben voyons donc, c'est évident, pourquoi tu poses la question? Ben, je pose la question parce que je veux avoir une réponse de ta part. Parce que tu es l'entraîneur du Canadien, c'est toi qui dois donner ces réponses-là. Mais lui, là, il marche encore sur la ligne. Il peut tellement pas dire que l'autre qui est assis sur le banc est pas de calibre. Puis tant qu'à avoir un gardien de but qui est pas de calibre, il est aussi bien d'avoir Price un petit peu fatigué.
Moi, c'est drôle, cette situation-là du gardien, ça me rappelle, ça fait quelques fois que je pense à cette situation-là. Et là, on change de sport, on recule d'une quinzaine d'années. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec Tom Brady, au milieu des années 2000, bon, on sait, ils avaient gagné leurs trois Super Bowls en quatre ans, mais éventuellement, on avait commencé à négliger, on dirait, le groupe de receveurs. Puis là, ben, t'avais Tom Brady qui était comme une Ferrari, mais chaussé sur des pneus quatre saisons que t'achètes chez Costco, tu sais, parce qu'il n'y avait pas de bons receveurs. Puis là, ben, pour la saison 2007, ben, ils se sont tannés. Puis là, ben, ils ont été chercher Randy Moss puis Wes Welker. Puis là, tout d'un coup, Tom Brady avait des vrais receveurs. Puis ça a recommencé. Puis ça a donné la saison de 16 victoires. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça avec Price. C'est que t'as une Ferrari, mais chaussée sur des mauvais pneus.
C'est une
justement,
comparaison fort intéressante.
Parce que tu peux pas l'utiliser comme il faut à son plein potentiel parce que t'es obligé de le surutiliser.
Et lui,
parce que
Price, depuis 2 ans, t'as personne. Se sent pas comme une vieille Nova Pocket, là. Effectivement, non. Même si l'usure du corps puis l'usure du temps fait son œuvre. Là, je regarde vite fait, je viens juste de faire un calcul des dernières années. Il y a une moyenne de 58 matchs dans les 4 dernières années, 58 matchs démarrés. Mais il y a une autre affaire aussi, ça m'indique à quel point le Canadien est prêt à vivre avec le fait de rater les séries. Je pense qu'on est conscient de ça depuis un bout de temps déjà, mais on est aussi conscient qu'il faut pas finir ça dans la honte. Et pour ne pas finir dans la honte, ben tu peux pas finir avec 14 défaites en ligne et non. En plus reposer Carey Price parce que tu veux taire j'imagine le discours de ceux qui vont dire ben là Price on paye 10.5 millions puis en plus il joue pas pour leur pause, il joue même pas en série.
15 millions.
Puis je pense que
15 millions cette année.
15 millions cette année.
Et
puis je pense que Price est un athlète fier. Ouais. Et il gardera pas en série cette année encore. Fait que lui il dit donnez-moi du caoutchouc puis tu sais la fierté de tout le monde est écorchée là dans cette organisation là.
Tant et aussi longtemps que le Canadien termine des saisons, comme Alexandre disait tout à l'heure, là, dans des matchs qui veulent plus ou moins rien dire, c'est important de les gagner parce que sans ça, là, tu traînes tes jeunes puis tu traînes les gars sur qui tu veux compter l'an prochain dans la défaite, dans la morosité et dans le négativisme. Tu sais, tu as besoin de gagner ces matchs-là. De toute façon, la loterie, Lafrenière, ils embarqueront pas là-dedans. Là. Puis nous autres, on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Mais en même temps, si tu gagnes un peu de matchs, tu vas pouvoir bâtir pour l'an prochain. Puis tes gars vont venir l'an prochain, tu vas avoir quelque chose de solide sur quoi compter. Je pense que c'est pour ça que Carey Price garde beaucoup les buts. Puis de toute façon, entre vous et moi, Carey Price, c'est un peu de la mentalité de Martin Brodeur. C'est moins de pratique possible, puis je veux jouer tous les matchs. C'est Martin était comme ça, et je pense que Carey Price est un peu comme ça.
Mais tu sais, Carey Price est dans des bonnes années de sa carrière. Quand même, il n'est pas encore passé là, le pic, le sommet des gardiens de but. C'est sûr qu'il pense à son héritage aussi, puis c'est sûr qu'il pense à ses statistiques de carrière. Puis, je veux dire, il est dans les années où présentement, il est en âge d'en garder plusieurs puis de gagner. Je me mets dans sa position. Moi aussi, je demanderais de jouer tous les soirs.
T'es un gars fier.
Non, mais tu sais, à la fin, là, ça peut faire une différence de, mettons, tu sais, 20, 30 victoires, de jouer 60 matchs plutôt que 70, même plutôt que d'en jouer 50.
Il voit Weber jouer sur un pied à gagner.
Mais tu sais, à la fin, ça peut faire la différence d'être dans le top 5 de l'histoire de la Ligue nationale ou pas aussi. Là.
Mais c'est correct que lui veut jouer tout le temps puis que lui pense à tout ça, mais après ça, par contre, l'organisation a quand même une responsabilité de bien l'encadrer, de gérer son volume de travail.
Mais une équipe préparée aux séries, avec une équipe de calibre pour les séries, t'aurais nécessairement un deuxième gardien qui est capable de se présenter et de gagner des matchs. On n'est pas là. Je suis convaincu que le plan changerait ou changera aussitôt qu'on aura... Cette année, le plan au début de l'année, c'était de se fiche Kincaid, puis on s'est vite rendu compte qu'il n'était pas fiable.
Mais moi, je suis moyennement d'accord avec ça, Guillaume. Oui, c'est à l'organisation de gérer son temps, puis surtout si aller en série, là, je pense que ça serait une gestion. Maintenant, l'équipe est éliminée, les matchs ne veulent plus dire grand-chose, c'est ta grande vedette, tu veux qu'elle reste heureuse, t'es gestionnaire, c'est sûr que tu vas te coller sur tes vedettes puis essayer de les rendre heureuses pour qu'ils reviennent t'sais, l'automne prochain en bonne disposition. Fait que, t'sais, on a vécu ça un petit peu avec Patrick Roy aussi à Montréal là, avec Jacques Demers. C'est Patrick Roy qui est un petit peu plus gros que l'équipe à un moment donné. Là, t'sais, ben, il y a quand même une comparaison possible dans le sens où, oui, le Canadien, à mon avis, si t'es gestionnaire au Canadien présentement, tu dois tout faire pour plaire à Carey Price dans une saison où de toute façon, les matchs ne veulent plus rien dire.
Mais parfois, les gestionnaires, entraîneurs, directeurs généraux doivent prendre des décisions pour le bien du joueur et le bien de l'équipe. Puis, je pense que Vegas est un très bon exemple. Marc-André Fleury, là, il veut jouer toutes. Il est comme Carey Price, il est comme Martin Brodeur, il est comme une coupe d'autres dans la ligue. Il veut toutes les jouer. Mais le directeur général des Golden Knights, lui, à la date limite des échanges, là, il a appelé à Chicago pour avoir un bon gardien de but numéro 2 parce qu'il sait que c'est pas une bonne chose pour les Golden Knights ni pour Marc-André Fleury qui joue tous les matchs. Alors moi, j'ai hâte que Marc Bergevin fasse quelque chose pour que ça n'arrive pas. Parce que tant aussi longtemps qu'on va surutiliser Price, comme ça, il a beau être gros, fort, bon, puis que c'est tout ce qu'il veut faire, là, ça sert pas bien le Canadien.
Mais je suis d'accord avec toi, mais dans une... Tu sais, les Golden Knights sont encore dans la course aux séries, alors que le Canadien pas. Mais je suis d'accord qu'il faut qu'il trouve une solution, le Canadien, pour l'année prochaine.
Solutions.
Non, mais on n'a pas besoin de le dire. Je pense que Marc Bergevin le sait absolument. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait des solutions l'année prochaine. Mais dans une saison où, de toute façon, les dés sont... T'sais, les jeux sont déjà faits. Moi, personnellement, comme gestionnaire, t'sais, je m'assois avec Carey Price. Je dis, OK, comment tu vois ça d'ici la fin de l'année? Puis regarde, on va rider avec toi. Moi, c'est comme ça que je gérerais ça.
Ben, ça commence à ressembler à ça.
Je pense que, de toute façon, la discussion a eu lieu avec Stéphane Waite, puis je pense qu'on a dit à Carey Price, écoute, mange tous tes légumes, repose-toi bien, là, parce que on va avoir besoin de toi pas mal.
Mais il y a des constats douloureux que, moi, personnellement, je fais, vous êtes pas obligé de les partager, puis je ne suis pas Jeff Molson, il peut vivre avec tout son monde-là encore 3 ans, s'il veut, là, puis ses actionnaires ou co-actionnaires ne se plaignent pas trop, mais on a constaté une chose cette semaine. Quand Marc Bergevin parle aux médias puis au public, là, ça ne passe plus. Son message ne passe plus. C'est tourné en dérision. On ne retient que les choses où... un petit peu comme c'est Trump qui parlait aux États-Unis. Là. Tout va être tourné de façon à le faire mal paraître parce que son discours est usé, il est redondant. Je pourrais sortir des extraits d'une conférence de presse l'année de son embauche où il répond sur Trevor Timmons et le recrutement. Et tous ces repêchages-là plus tard, il répond encore de la même façon. N'a pas su se renouveler, a l'air en douleur. Je pense qu'on méprise pas le bon monde. Les médias n'ont rien à faire dans l'affiche des buts du Canadien de Montréal. Ça, c'est un constat que je fais. Si Jeff Molson peut continuer de vivre avec ça parce qu'il sait que en toile de fond de ça, il y a des bonnes choses qui se préparent, puis il prend endosser son DG avec ça, c'est correct. Mais ils ont vraiment un problème de communication. Puis l'autre problème de com, c'est Claude Julien avec son club. Moi, je m'excuse, je reviens au propos de départ. Là, tu disais qu'il se sépare de son équipe. Alexandre, tu penses qu'il ne va être sacrifié à la fin de l'année? J'ai vraiment du mal à imaginer tout le monde revenir, puis tu sais, incarner l'espoir, tu sais, les discours, il doit y avoir une redondance. Puis tu sais, ça a-tu déjà fonctionné entre Claude Julien puis le Canadien depuis qu'il a remplacé Michel Therrien, honnêtement, là? Puis ça y enlève, on l'a dit, ça demeure un bon coach.
Que l'an passé, d'avoir soutiré 96 points de cette équipe-là l'an passé,
l'équipe
je pense.
Moyenne.
Ben c'est ça, exact. Ouais. Je pense que l'an passé, le courant passé, je pense que quand il est arrivé également, l'effet à la mi-saison avait été là aussi.
En fait,
là.
Ça a bien été jusqu'à la série du 8 défaites, là. C'était la première des deux séries du 8 défaites. Jusque-là, ça allait...
Oui, parce que ça, exact, parce que le Canadien avait eu un bon premier mois et demi, disons, là, de saison.
Le Canadien va manquer les séries encore une fois cette année, puis il y a des millions de dollars qui vont être laissés sur la table. Ça, on n'en parle pas souvent, là, mais quand le Canadien n'est pas là, c'est plusieurs millions qui sont laissés sur la table pour le propriétaire. Mais n'oubliez pas que si on change de coach le 5 avril, le 6 avril, après le dernier match, ça va coûter quelques millions encore, parce que Claude Julien a un contrat de 5 millions par année, puis ça coûte 15 si tu veux t'en départir.
Avec l'argent qu'ils font, là, j'espère que c'est pas une grosse décision. Babcock, il en restait 3. Halsner joue à 4,25 dans la Ligue américaine, ça fait une couple d'années. Dale Louis joue dans la Ligue américaine. On a pris des salaires pour avoir des choix. Alors, si on décide que c'est le temps de tirer sa blog, j'espère que c'est pas ça qui va retenir.
Je pense que les Canadiens sont quand même une couple de millions aussi présentement sur le plafond salarial là, depuis 2 ans.
Hey, ils ratent les séries, puis ils redonnent l'argent aux autres équipes, ça paie équation. Fait que donne-en moins, puis prends une bonne décision avec ton monde. Mais t'as raison de souligner que oui, il y a un aspect financier lié à cette décision-là.
Il y a un aspect financier parce que, messieurs, les pertes sont importantes. Les pertes sont importantes. Il y a un paquet de choses là, dans l'organisation qui sont remis à plus tard et à plus tard et à plus tard. Des choses...
Mais de ne pas prendre de décision, des fois, ça va provoquer des pertes encore plus importantes.
Il y a beaucoup d'argent dormant, là, ça c'est clair. Ne serait-ce qu'à Laval, là, c'est beaucoup d'argent. Là.
Mm-hmm. Moi, je sais pas comment Marc Bergevin... Puis encore là, on se demande... jusqu'à quel point il a encore la légitimité de lui dire à l'autre qu'il n'a pas fait la job parce qu'il n'a pas donné trop de renfort en termes de joueurs. Mais en termes de joueurs, quand je vois l'équipe réagir puis le coach répéter les mêmes affaires, écoutez, on a fait grand cas de Carbo, sa déclaration, vous en souvenez, il y a quelques années à Détroit, oui. Moi et Kirk, on peut toujours bien pas aller jouer à place des gars. Claude Julien, là, c'est une par semaine de la même nature là, depuis quelques semaines. Ben, c'est un gars, son message ne passe plus. Avez-vous vu les images sur le banc de Julien? Il n'y a pas grand monde dans les shows de télé qui l'ont reprise, là. Il parle à Suzuki et à Drouin. Écoutez, là, je l'ai écouté, j'étais avec des amis à la maison. Puis là, je les ai pas induits vers une perception que je voulais, là. Tu comprends? J'ai dit, les gars, regardez ça. Mon garçon puis les boys avec qui je regardais le match. Dites-moi qu'est-ce que vous sentez de cette communication-là. Hey, je sais que c'est de la spéculation, de langage corporel, là. Mais, hey, on n'est pas des nonos, là. Je veux dire, les gars veulent rien savoir. En tout cas, Drouin veut rien savoir de ce que Claude Julien a dit.
Non, mais Mario...
Je mettrais ma main au feu qu'il veut rien savoir. Puis d'ailleurs, il y avait une petite curve à Drouin dans son point de presse là, quand on explique son absence.
Oui.
Parce que dans le fond, ce qu'il a dit, c'est qu'il aide pas l'équipe. Tu sais, puis je sais pas s'il veut l'aider, l'équipe de Claude Julien en ce moment.
Moi, je vais faire une légère nuance à ce que tu dis. Est-ce que le message passe pas? Non, je pense que le message, tu sais, je pense qu'il passe encore, mais est-ce que les joueurs accordent de l'importance à ce que Claude Julien va dire, sachant qu'il sera plus là à la fin de l'année? Presque assurément, là. Je pense qu'il est là la nuance. C'est quand t'as un patron puis que tu sais que le patron s'en va, par exemple, je pense que tu réagis pas pareil avec le patron que dans une phase normale, par exemple.
Ou tu donnes le pencher qui manque.
Tu penses peut-être plus à tes points, à ce que tu dois faire pour toi, pour tes
exactement.
Points.
Exactement. Fait que je suis pas sûr que c'est tant le message qui passe pas que, t'as encore beaucoup de légitimité auprès des joueurs, tu sais, sur le long terme. Tu sais, mettons que t'es un joueur là, de troisième trio présentement, puis que t'aspires à monter sur le deuxième trio l'année prochaine, tu sais que ça va être le même coach qui va être là. Tu sais, tu vas agir, tu vas voir, c'est comme si t'es à l'école puis que t'es sûr d'avoir le même prof 2 ans de suite. T'agiras pas pareil que si t'es reste 2 mois, puis tu sais que tu ne verras plus jamais propre dans ta vie.
Les joueurs de troisième trio, en général, je répète encore, dans un vestiaire de la Ligue nationale, ils suivent.
Ouais.
Ils suivent les gars de premier trio, les gars de première paire de défense. Puis, dans les moments les plus difficiles cette année, surtout dans la deuxième séquence de défaite, là, ils auraient eu l'occasion de, excusez l'expression, là, de le pendre, Claude Julien. Ils auraient eu l'occasion. Parce qu'à un moment donné, là, les vétérans avaient juste, pendant ce moment-là, alors que l'équipe aurait pu se battre encore pour les séries, il y avait juste à peser sur le bouton. Mais au lieu de peser sur le bouton, quand le coach sortait du vestiaire, le ton dans le vestiaire, le message de Claude Julien était prolongé par les leaders de l'équipe. Moi, c'est pour ça que je ne vais pas directement dans votre sens par rapport au message de Claude Julien. Parce que moi, je sais qu'il passe encore. Ouais. Parce que les vétérans, les leaders de l'équipe le propagent encore de la même façon. Est-ce qu'un soir au banc, Suzuki est pas tanné de se faire dire « rouvre tes yeux puis regarde autour » Ben oui. Tu sais, si on avait des micros pour entendre ce qui se passe sur tous les bancs de la Ligue nationale, là, mettez-en un à Joel Kenville en Floride, là. Vous allez voir que ça brasse parfois, là. Puis tu sais, Ken Hitchcock, qui a fait sa réputation à crier après ses joueurs au banc, il y a des coachs plus intenses que d'autres. Mais ultimement, moi, je pense que le message du coach et ce que les leaders ont dit dans le vestiaire, pour moi, là, humblement, vous me ramenez-moi à l'ordre si je me suis trompé, là, j'aurais pas de problème avec ça. Mais moi, je pense que c'est encore le même. Puis dans le moment où l'équipe allait très mal, c'était encore le même.
C'est le même qui conduit à des défaites après défaites de la même façon. C'est redondant. Je ne sais pas. Regarde, ça enlève rien aux compétences du gars. C'est à un moment donné, peux-tu envisager, on recommence la même saison? Ça va être tous les mêmes gars, le même discours, puis t'espères quelques joueurs en mieux. Mais sais-tu quoi, Martin, je t'écoutais, puis je pensais au congédiement de Michel Therrien.
Mm-hmm.
Le congédiement de Michel Therrien, là, c'est les joueurs qui ont pris la décision. Mais j'espère que Marc Bergevin fera pas la même erreur d'être tellement collé sur son coach, de pas avoir assez le pouls de ses joueurs, puis d'attendre encore que ce soit les joueurs qui viennent lui dire. Parce que la job du DG, c'est les joueurs là, lui demander de d'appuyer sa gâchette pour que le coach saute. Là. Je vais te dire une affaire, je vais vous laisser trouver un qualificatif pour ça. Je trouve pas que c'est très courageux. C'est vraiment d'être ou dans le déni ou de pas savoir ce qui se passe dans ton club. Je dis pas qu'on en est là où on était rendu à l'époque de Michel Therrien entre le club et le coach. Mais c'est au DG d'avoir la distance nécessaire pour savoir ce qui se passe, de pas attendre que Carey Price, il se lève dans la chambre et dit « Hey, that's enough ». Tu sais, et moi, c'est ça que je déplore. Dirige, sois le DG de ce club-là. Prends un peu de distance, observe-les ton club. Puis c'est correct de blâmer les joueurs, parce qu'on veut pas qu'ils soient déresponsabilisés, mais j'espère qu'on n'attend pas que ce soit un joueur qui fasse la job du DG encore.
Mais en même temps, c'est sûr qu'à ce point-ci de l'année, de toute façon, dans l'immédiat, je m'attends pas, quoi qu'il arrive, je m'attends pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit qui se décide là, de toute façon.
Erreur ou une bonne décision de garder les choses en place plutôt que de donner le club, par exemple, à un Dominique Ducharme dès maintenant, d'avoir un nouveau regard sur un paquet de tes talents avant de les flusher puis de les envoyer contre une douzaine de bâtons peut-être au 1er juillet, de réévaluer ton potentiel avec un nouveau regard, de dire « Ah, c'est vrai, je pensais que Drouin, j'avais tiré à la plug sur Drouin, moi c'était fini, je l'échangeais. Oh, sur Dominique Ducharme, c'est-tu drôle? Il y a des ailes, qu'est-ce qui s'est passé donc? Puis Gérard qui devient l'entraîneur associé de Dominique, c'est-tu drôle les gars? Là en plus on calme le marché, puis pourquoi qu'on attendrait d'avoir un mauvais début de saison en décembre l'an prochain pour faire ce qu'on pourrait faire maintenant?
Moi je parle simplement du dernier mois de la saison là, qui reste à écouler. Je veux pas dire de le garder puis de commencer la
prochaine
saison.
Non, mais moi, c'est ça que je dis, à la limite, je pousse ta réflexion, puis c'est notre droit, on est dans les médias, on est au micro. Non, mais pas vrai. Puis dans un meeting de bas, j'espère que Marc Bergevin, il évoque des questions comme celle-là avec ses plus proches confidents.
Ça serait
quoi l'avantage? Ben, pourquoi pas?
De rentrer. Ben, parce que
tu nommes par intérim, tu réévalues tes gars, que t'es prêt à tirer à plug.
Puis à ce stade-ci.
Pas de personnel, en plus.
Non, mais déjà, les gars, on voit qu'ils ont quand même baissé le niveau d'intensité ou d'engagement présentement. Parce que les matchs veulent pas rien dire. Je veux dire, imagine, tu rentres un nouveau coach, ça veut pas dire plus de choses, sauf peut-être des auditions pour l'année prochaine. Puis le risque réel, en fait, Mario, c'est qu'il arrive comme à l'Impact quand ils ont rentré Wilmer Cabrera l'année dernière. Tu commences, l'équipe est à plat, puis t'en perds 7 de suite. Puis là,
il y a quand même des réponses à Toronto. Tu sais, quand on regarde ce qui se passe à Toronto, ils l'ont changé, l'entraîneur. Il était tanné de le voir. Est-ce que Sheldon Keefe a amélioré les affaires? Ben non. Il répète encore les mêmes choses. Moi, je suis Toronto quotidiennement, un peu partout dans la ligue. Là. Puis là, les quotes de Keefe commencent à ressembler à celles de Babcock.
Ouais.
Parce que un des problèmes, c'est dans l'équipe à Toronto qui l'est.
T'as raison, Martin, de souligner. J'ai pensé moi aussi avant de me mouiller là-dessus. Puis, c'est sûr, mais chaque situation, c'est une situation unique. C'est quoi la relation du coach avec ses joueurs? Parce qu'on peut trouver une histoire pour dire c'est pas une bonne idée de congédier, puis on peut en trouver d'autres pour dire c'est une bonne idée de congédier.
Mais il est trop tard.
Comme Bérubé Saint-Louis l'an passé.
Mais au mois de janvier, après la première série de 8 défaites, même à la limite après la deuxième série de 8 défaites, là j'aurais nommé quelqu'un par intérim, mais là écoute, on est rendu, il reste un mois, ça vaut moins la peine. Mais je suis d'accord avec toi qu'après la première série de 8 défaites, ça aurait pu être envisageable.
Ben moi je pense que vous avez raison, je me range à certains de vos arguments là-dessus, mais je veux dire, si tu construis vraiment le futur, pourquoi tu construis le futur avec tes jeunes, tu le construis pas avec tes entraîneurs aussi? Là, Claude Julien, c'est pas l'entraîneur du futur. Je m'excuse, là. Et puis, c'est rien de personnel. C'est comme Trevor Timmons. Je connais pas Trevor Timmons. C'est les choix que je regarde, puis le nom qu'on met là-dessus, c'est Trevor Timmons. Parce que fait 17 ans qu'il est là. Je dirais pas que c'est Gaston Gingras, c'est Trevor Timmons. Non, mais c'est dans ce sens-là que je le dis.
Ouais, mais
c'est
Mario,
rien de personnel avec Claude, là. C'est que moi, je pense pas que c'est le coach du futur.
À Saint-Louis, là, l'équipe qui a gagné la coupe, là, c'est quand même pas trop mal, là. Ils ont sorti l'entraîneur du futur, puis ils ont rentré l'entraîneur du passé. Puis c'est l'entraîneur du passé qui a gagné la coupe.
Ben, pour eux, c'était l'entraîneur du futur. Puis du présent,
non, mais c'est l'entraîneur
du présent.
C'était l'entraîneur du passé,
trop
Mario,
souvent
parce
présent.
Que c'était l'entraîneur du passé parce que Craig Berube, c'est un old school. C'est comme Claude Julien. C'est la même affaire. Pas tout à fait pareil comme système de jeu.
Ouais, mais
comme
old
gars,
school
là.
Que ça fait pas 3 ans qu'ils entendaient répéter les mêmes affaires dans leurs oreilles.
Non, mais ils ont quand même sorti un entraîneur qui était un entraîneur de négociation, puis un entraîneur qui aime s'asseoir longtemps avec ses joueurs, puis parler de leurs affaires à la maison, puis parler de leurs affaires de hockey. Mm. C'était la nouvelle génération d'entraîneurs.
Mais les gars qui parlent trop, puis Claude Julien parle peut-être trop, puis trop longtemps. Il est bon, mais dis, nous autres, on a la perception. On est pas dans la chambre, là. On voit ce qui sort dans les médias. Honnêtement, il contrôle bien la game en tabarouette, là. Il parle bien, là. Puis je suis convaincu qu'il y a ses contacts, puis il sait avec qui entretenir son blason. Tu sais, c'est ça, la game, là. Michel Therrien avait ses poteaux. Tout le monde a ses poteaux. Puis je suis convaincu qu'il s'est dit les bonnes choses au bon monde pour garder une perception intacte. Et d'ailleurs, dans ses points de presse, on sent que c'est pas de sa faute. Puis je dis pas que c'est de sa faute, mais tu peux pas te soustraire de l'équation tout le temps. Pas de ta faute, mon Claude, c'est correct. C'est pas de la faute à Marc, pas de la faute à Jeff, ça va bien, puis c'était correct l'an passé, ça a été bon, on a manqué série, c'était bon.
Il a quand même pris des taloches pour ses joueurs. Puis ses joueurs l'ont respecté quand il est allé en avant du micro puis il a pris des taloches. À Dallas, là, au début de l'année, là, il a pris une taloche pour les joueurs. Les joueurs s'étaient pas présentés, ils étaient tout croche. Il est allé là-bas puis il a dit « Hey, savez-vous quoi? » Parce que là, on a commencé à poser des questions. Je sais pas si Guillaume était là sur ce voyage-là.
Oui, oui,
on a commencé à parler. « Hey, écoute, là, c'était pas chic ce soir. Là. Mm-hmm. C'était pas comme ça les questions, mais ça sonnait comme ça.
Oui. »
Puis lui, il nous a regardé puis il a dit « Hey, vous irez pas là ce soir. Là. C'est humain. » Bon,
ça arrive.
Alors,
ouais.
Ça arrive. Il en prend une sur le menton pour ses joueurs. À quelques
reprises. Y avait-tu le choix, Martin? Y avait-tu le choix? Ton club, il répond pas. Ben, ton club répond pas. T'es en début d'année. T'es plante ou ben, dans le fond, tu sais qu'ils réagissent pas à ton discours. Tu sais, quelque part, il y avait pas,
Mario,
il y avait
pas,
pas le choix, là.
J'essaie pas de te convaincre, Mario, mais j'essaie simplement de dire que l'ascenseur, elle s'est promenée. L'ascenseur est retourné entre les joueurs puis le coach, tu sais. Que récemment, là, ils disent, ben, je peux pas aller jouer à leur place, c'est une chose, mais moi, je pense que dans les deux dernières années, là, la plupart du temps, l'ascenseur s'est promené. Puis je ramène l'histoire de la question de notre ami Stu hier soir. Le coach, il a fait ça pour dire « Vous toucherez pas à mon goaler. » Alors là, il a défendu son gardien de but. Il a fait ça pour éloigner.
Il défend ses décisions aussi. Tu sais, ce faisant, là, c'est sa décision qu'il défend. C'est lui qui décide de le faire jouer tout le temps de même, là.
C'est sûr que dans une question comme ça, il
se défend, il
s'en
challenge
également, effectivement.
Il se défend
dans
pas
sa,
juste Carey Price, là. Parce que, tu sais, m'a dit, je te
c'est les deux.
Je te ferais sortir, là, un montage de tout ce que Claude Julien dit sur Carey Price depuis 3 ans, puis je trouve que ça manque d'amour. Fait que, moi, je pense qu'il défendait bien plus sa décision que Carey Price.
Ben, c'est ça, mais regarde, un dirigeant va toujours défendre
ses décisions. On sera pas d'accord sur celle-là.
Mais... C'est bien correct, les gars. On jase. Tout ce qui manque, là, c'est une bonne bière, là, non?
Mais tu sais, un dirigeant, ça va toujours défendre ses décisions, là. Tu sais, Marc Bergevin aussi, il a défendu ses décisions la semaine dernière, notamment en invoquant la chance.
De piètre façon, mais il les a défendus quand même.
Ça, c'est, mais on peut en discuter très longtemps, mais je pense que ça a été fait dans le dernier podcast. Mais c'est sûr qu'il va défendre sa décision. Puis je connais pas un coach qui aime ça être second guessé, là. Je dis vraiment pas, là.
Ralph Kruger.
Il aime ça.
Ben, pas qu'il aime ça. Pas qu'il aime ça, mais il est capable, puis c'est parce que ça s'est arrivé à Buffalo quelques fois quand on était là, mais il est capable, lui, de dire aux journalistes, ben, c'est une très bonne question, puis je comprends pourquoi tu la poses.
Ah, oui.
Probablement qu'en dedans, il se dit pas ça, mais il est capable d'aller.
Mais
Ralph Kruger est un diplomate de carrière aussi.
C'est une minute
à part.
C'est rien comparé à Tortorella, qui est le plus grand des diplomates.
Hein? Oui.
Non, mais c'est correct avec un petit dé, un tout petit dé.
Mais cela dit, Claude Julien, au niveau de la communication, je le réitère, là. Puis tu sais, tout ce que j'ai dit sur le fait que je pense que ce n'est plus l'homme pour le Canadien, ça enlève rien à ce que j'apprécie de lui. C'est un gars qui va rediriger dans la ligue s'il le veut. C'est un gars qui va se recycler comme Jacques Martin l'a fait avec Pittsburgh, comme il y en a plein d'autres. D'ailleurs, Kirk Muller fait ça avec le Canadien. Gérard Gallant va peut-être le refaire dans sa carrière. Je veux dire, tu sais, un gars qui est passionné puis qui a des connaissances d'hockey très claires. Peut-être qu'à un moment donné, d'être celui qui a tout le temps baguette aussi, ça devient épuisant dans le discours, c'est sûr. En tout cas, c'est ma pensée. Ça, c'est pas ses qualités, c'est la situation X. Puis je pense que lui, ben, ce n'est plus le bon fit. En fait, c'est correct que tu finisses l'année avec, mais je vois pas le Canadien avancer encore 2 ans.
Non, mais
ça arrivera pas. Là.
Je répète ce que j'ai dit au début. Moi, je suis convaincu qu'il sera pas là l'année prochaine. Là. Écoute, c'est combien de coachs là dans les 75 dernières années ont survécu à 2 3. Séquences de 8 défaites puis une autre là qui est horrible là, présentement.
3 exclusions de suite,
tu sais. Je pense pas que ça arrive, mais maintenant ils ont le dit 200 fois cette année. Moi je pense que c'est pas uniquement de sa part, il faut qu'il prenne une petite part, pas une grosse part.
Manque
de talent quand même dans cette équipe-là. Là,
messieurs, quand on prend une décision comme ça, faut qu'elle fasse avancer ton organisation. Ouais. Parce que si tu prends une décision comme ça pour dire « Bon, t'en es, on y a assez vu à la face, bye! » Tu sais, à Edmonton, ils en ont brûlé 10 comme ça. C'est pas 4, 5, 10! 10! Pendant le processus de reconstruction. Lui, on tenait d'y voir la face. Bye, bye, bye. Mais à un moment donné, là, ça passe plus.
Mais prends Gérard Gallant, là, qui était super populaire auprès de ses joueurs, là, sûrement de ses vétérans. L'équipe est 11-3 depuis qu'il est plus là. Tu sais, c'est le bon Dieu, là. C'est le gars qu'on était en défaut de pas engager parce qu'il parlait pas français à Montréal. Là, c'était lui, le nouveau Houdini du coaching. Puis je dis même pas ça pour le déprécier. Je le vois encore dans un rôle de numéro 2, peut-être, ou quoi que ce soit. Mais comme quoi, il y en a des changements qui font du bien aussi, là, où il y a quelqu'un qui fait pas les affaires comme du monde, même s'il est populaire auprès de ses joueurs. joueur.
Ben, tu sais, il faut se demander est-ce que Claude Julien, par exemple, si le Canadien va vers une reconstruction, c'est possible. Hein? C'est, moi, je l'exclus pas, ce scénario-là, là, avec le nombre de joueurs autonomes qu'il va avoir à la fin de la saison 2021. Si le Canadien décide de refaire son noyau au complet, tu sais, est-ce qu'un gars comme Claude Julien, ça y tente de recommencer à zéro, puis de savoir que tu t'en vas pour 3 ou 4 ans sans faire les séries après les avoir ratés 3 ans de suite? Je suis pas certain. Puis le coach qui va passer à travers le prochain, appelez ça comme vous voulez, le reset, reconstruction, hey, il va falloir qu'il soit sur la même page que son boss, pas juste un peu, là. T'sais, je veux dire, il va se faire imposer des joueurs dans son alignement, là. C'est ça qui va arriver, là.
Mais, t'sais, les coachs se font tous imposer des joueurs dans leur alignement.
Et c'est arrivé, c'est comme ça, j'imagine.
C'est comme ça.
Oui, mais il y a quand même des organisations dans lesquelles t'as des joueurs qui sont de valeur Ligue nationale. T'sais, mettons les Bruins. T'as quand même des joueurs de valeur Ligue nationale. Là, tu vas t'en faire imposer, mais, t'sais, un méchant paquet, là. Moi, je pense que ça va être Star Academy l'année prochaine, version hockey, là. On essaie de faire l'alignement tantôt, Guillaume et moi, là.
On manquait de noms au quatrième trio.
Le bottom six, là, c'était plutôt difficile, mais on s'en va voir ça. Ça va prendre un coach. Je le sais, là, qu'ils sont très proches, là, Marc Bergevin puis Claude Julien. Mais ça va prendre un, t'sais, je pense que, honnêtement, le directeur général l'année prochaine va avoir plus d'impact sur l'équipe qu'il y en a, mettons, cette année, là.
Je sais pas s'ils sont très proches. Mais je pense que un respecte l'autre là, et vice versa. Mais je pense qu'encore là, il y a des exemples intéressants sur ce que tu dis, Alexandre et Guillaume, entre autres. Moi, je pense que Détroit est un bel exemple. Tu sais, nous autres l'année passée là, on savait tout, on pensait tout que Jeff Blashill était out, fini, cuit des deux côtés. Il est encore là. Pourquoi? Parce que Steve Yzerman à Détroit, il s'est dit pourquoi j'irais brûler un autre coach dans une situation comme celle-là.
Alors qu'il me conduit tout droit vers Lafrenière.
Exactement. Alors il prolonge, tu sais, Ken Harlan prolonge le contrat de Blashill avant de s'en aller. Puis Steve Yzerman, en gérant général intelligent, il touche pas à ça. Il veut pas brûler un coach dans une équipe qui s'en va dans le fond pour avoir le premier choix puis pour rebâtir. Mm-hmm. Alors, tu sais, si je suis votre logique, là...
Mais Blashill va sauter un moment donné, tu sais, Martin.
Oui, il va sauter. Avant que
l'équipe devienne bonne.
Il va sauter, mais dans un bon moment. Tu sais, parce que cette année, là, encore là, on aurait tout simplement brûlé peut-être un bon coach à Détroit si on avait mis un bon jeune coach à la place de Jeff Blashill. Moi, je pense que si je suis votre logique de reconstruction, moi, je ferais bien attention de brûler le coach du futur tout de suite pendant le début du processus, si je suis votre raisonnement. Là.
À moins que ça soit le signal que, tu sais, je veux dire, c'est lui qui va l'amener, la reconstruction. Ça, mais tu sais, connaissant le Canadien, ils vont faire ça probablement dans l'entre-saison avec une belle conférence de presse, puis un air de... Tu sais, il y a une opération On relance l'espoir qui va être orchestrée. On n'est pas dupes. C'est quand même une grosse organisation. Il y a beaucoup de monde qui réfléchissent à toutes ces questions-là.
Ils annonceront pas une reconstruction et 2 ans de contrat.
Et Romanov va arriver. Va
ça, c'est un mot qu'ils veulent même pas entendre. De toute façon.
Non, mais ça arrivera. Mais moi, ça arrivera pas d'un coup, ça-là.
La reconstruction, c'est la suite d'une médiocrité continue. Non, mais pour vrai, non?
Je sais pas où est-ce qu'il va aller, mais c'est sûr qu'il faut qu'ils vendent de l'espoir, là. Ça, je pense que c'est la grande priorité de l'organisation cet été, mais avant même de mettre une équipe sur la glace l'année prochaine, ça va être ça, tu sais. Parce que il y a un risque de défanatisation qui existe. T'sais, ça va se faire à plusieurs étapes. Moi, je pense qu'il va y avoir une annonce, là, dans les 2-3 jours qui vont suivre la fin de la saison. Il va y avoir le repêchage qui va être un moment fort avec le Canadien qui a 14 choix. Après ça, ils vont signer Romanov. Après ça, on va arriver au camp d'entraînement, puis ils vont amener Ilonen, puis d'autres joueurs qui vont arriver. Tu sais, ils vont créer un momentum là, qui va durer 4-5 mois. Ils feront pas tout ça la même journée. Là, mais oui, ils vont créer un mouvement sur une longue période de temps pour ramener l'espoir pour qu'on se présente au camp d'entraînement et que les gens aient l'impression que le Canadien, ça va dans la bonne direction.
Puis, tu sais, juste pour une chose, moi, la dernière fois que j'ai été bien fâché, le côté un peu fan observateur en moi, c'est je réclamais l'arrivée de nouvelles têtes d'hockey. À ce moment-là, moi, j'avais identifié Dominique Ducharme et Joël Bouchard. Puis Joël Bouchard est en poste à Laval. On lui a pas donné des gros espoirs à date à diriger. Là, il les a sous la main. On va voir le travail qu'il peut faire avec eux autres. Dominique Ducharme a été intégré à l'équipe de coaching de Claude Julien. Mais je sais pas c'est qui le coach qui éventuellement dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an ou dans 10 semaines va remplacer Claude Julien. Mais je veux dire, Dominique Ducharme, en tout cas, me semble être en bonne position d'amener ça à un autre niveau. Il a déjà gagné le respect, je pense, de tous les joueurs du Canadien actuel, vétérans. Je pense les recrues de la ISP. On verra, ce sera peut-être pas lui le choix, mais il a gagné le Cup Memorial, il a gagné le World Junior. Mm-hmm. Il manque de quoi?
Il manque peut-être un petit peu de millage quand même chez les professionnels. C'est quand même rapide. Comme
il a 47 ans. Pat Burns, Alain Vigneault, Michel Therrien avaient 36 ans quand on leur a donné le club. Claude Julien avait 42 ans quand on lui a donné le club.
Jean Perron.
Perron était jeune. Moi, je pense que c'est une question de compétence, mais je t'écoute.
Mais tu sais, je pense que des gars comme Pascal Vincent, entre autres, qui est quand même depuis 8 ans chez les professionnels, je pense qu'en est un qui commence à avoir du millage. Il y a de l'expérience. Entraîneur-chef Ligue américaine, entraîneur adjoint Ligue nationale.
Il doit être considéré.
Parce que c'est ça, je veux dire, ça m'apparaît quand même rapide comme transition.
Mais la génération actuelle, là, c'est des Kotkaniemi, c'est des gars qui sortent de l'âge du World Junior, c'est des Suzuki. Ouais. Chose l'a coaché. Duchamp, il l'a coaché. Domi, c'est le chum de Drouin. Gars, je sais pas, là. Mais tu sais, les jeunes, puis moi, je vois ça comme un gars de sa génération, puis je suis pas sûr que la communication entre la génération actuelle et Claude passe tant que ça. Je pense que je le sens même désemparé par moment.
Pascal Vincent, c'est même aussi qualité-là, je pense, de pouvoir créer des liens avec la plus jeune génération.
Mais Pascal Vincent n'a pas gagné la Coupe Memorial ni le World Junior comme entraîneur-chef.
Moi, je pense que tout ça, c'est circonstanciel parfois, tu sais, parce que je réfère encore, par exemple, à Joël Canville. J'ai eu une bonne discussion avec Jonathan Huberdeau, qui ressemble pas mal à la nouvelle génération dont tu fais référence, Mario. Je pense que Jonathan Huberdeau était bien content de voir un vieux de la vieille en arrière du banc, puis un gars qui sait de quoi il parle, puis qui a l'expérience, puis qui a le vécu. Moi, je pense que tout ça, c'est circonstanciel. J'ai donné l'exemple de Craig Berube tout à l'heure, puis je voulais pas manquer de respect à Mike Yeo, mais Mike Yeo était un coach de consensus. Tu sais, il avait appris avec Michel Therrien, qui était avec le bâton puis la carotte, puis lui il faisait les choses
souvent
différentes.
Le bâton.
Oui, ça, des fois, pas de carottes pantoute. Alors,
Le bâton puis le bâton.
Puis, tu sais, Mike Yeo faisait les choses différemment. Puis, à un moment donné, ça a pris un autre message. Ça a pris quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Alors, tu sais, de dire, c'est comme ça, puis c'est seulement comme ça qu'on doit aller. Moi, je suis pas sûr. Il y a des groupes de jeunes joueurs, de jeunes équipes qui ont besoin de temps en temps d'un peu de papier sablé. Puis, il y a des gars qui sortent d'une équipe où il y a eu trop de papier sablé, puis là, ils ont besoin d'un diplomate. Ouais. Alors, je pense que c'est très difficile de trancher ça dans le blanc puis dans le noir.
Ben oui,
une affaire auquel je crois, moi, puis je rejoins Guillaume là-dessus, c'est l'expérience. Dans les marchés comme des marchés chauds, ça prend de l'expérience chez les professionnels. Je dis pas que ça prend 10 ans dans la Ligue nationale, mais ça prend probablement une couple d'années dans la Ligue américaine, ça prend de l'expérience. Ce sont des marchés trop difficiles pour envoyer quelqu'un inexpérimenté chez les professionnels là-dedans.
Et on le fait souvent. Ouais. Pourtant, Montréal, on est le royaume des entraîneurs recrues. Je te dis pas que ça a tout le temps été payant, mais Pat Burns a fait une finale. Jean Perron a gagné une Coupe Stanley. Les autres sont arrivés dans des années plus moribondes. N'oubliez pas que la dernière Coupe, on avait 24 équipes. On est rendu à 31. Il va en avoir 32.
Il y a beaucoup de ces jeunes entraîneurs-là qui sont arrivés aussi avec des équipes dont le noyau était plutôt jeune. T'sais, par aussi. Exemple, t'sais, quand Pat Burns était là, oui, je comprends, on était sur la fin là, de Bob Gainey. Mais t'sais, l'équipe, les leaders, c'est Claude Lemieux, c'était Patrick Roy, bon, c'est les plus jeunes, Carbo qui n'était pas si vieux que ça non plus. Tu sais, chez les Canadiens, présentement, là, les leaders, ce sont les vétérans. Les vétérans, ils aiment ça, un coach de vétérans. T'sais, ils aiment un coach à la Claude Julien. Moi, c'est pour ça que je pense le message, il passe encore. Là, t'sais. Et ils aiment un coach qui connaît, qui ne les bousculera pas nécessairement par rapport à un coach qui a 30 ans, par exemple, ou qui a leur âge ou à peu près, puis qui arrive puis dit « OK, là, on va tout jeter à terre ce que vous connaissez. Là, on part à zéro. Moi, j'ai une nouvelle théorie. Là, je vais faire ça comme ça. » C'est très déstabilisant. Les jeunes aiment ça parce qu'ils voient l'opportunité qui va s'ouvrir de dire « OK, lui, il sera peut-être pas nécessairement du bord des vétérans. Je vais peut-être avoir une place à première, à deuxième ligne. C'est peut-être ma chance de percer. » Mais les vétérans, ils aiment les coachs plus old school de façon générale.
Ben, je pense que tout le monde aime son coach quand l'équipe gagne, tu sais. Quand l'équipe perd puis rate les séries une année, deux années, trois années, ben peut-être que tu l'aimes moins ton coach, puis ça serait juste normal. Peut-être que t'aimes moins ton DG, peut-être que quand... Imagine un joueur ou un coach ou le président du Canadien qui regarde la conférence de Marc l'autre jour, là, je veux dire, il sort pas du bureau sans sauter dans les airs, de dire « yes », là. Tu sais, maintenant, ça déteint cette lourdeur-là sur tout le monde, mais en tout cas... Mais juste pour l'exercice, là, t'as nommé Pascal Vincent, vite fait, juste pour le fun, parce que le gars, il réfléchit à ça, là, le big boss, faut tu réfléchisses à ça, même si tu le fais pas, le move. Puis d'ailleurs, c'est quand Claude Julien est devenu disponible que Michel Therrien a été condamné. Ce serait qui les candidats, vite fait? Tu parles de Pascal Vincent, Patrick Roy, nommez-en d'autres.
André Tourigny.
André Tourigny, que j'adore, ouais. Aussi comme homme, comme coach.
C'est sûr que le nom de Benoît Groulx va ressortir, lui aussi, parce qu'il y a un passé comparable à celui de Dominique Ducharme dans le niveau...
Tout ce qui est, Gérard Galland, par exemple, ou les coachs qui viennent d'être congédiés, moi, je pense qu'il y a un problème avec la langue. pas tant à cause du coach, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs francophones dans l'équipe tout court. Là. Sinon, on va surtaxer les deux, trois francophones qu'il y a dans l'équipe, ce qui n'est peut-être pas nécessairement non plus une bonne chose au niveau de gestion d'image de marque. Mais oui, il va faire partie de la conversation aussi, là, je suis convaincu.
Ben, on peut mettre le nom de Bob Hartley. Personnellement, je suis sceptique, raison de le mettre. Parce que je suis pas convaincu de ses résultats, même s'il y a eu un Jack Adams. Mais c'est sûr que son nom va revenir. Il a du métier. Il s'est souvent réinventé. Donc, c'est un autre nom qui va revenir.
Alain Vigneault travaille tant qu'il travaille. Y a-tu d'autres anciens qu'on oublie quelque part? C'est pas mal ça,
on
là.
On va ramener Carbo pour. Non, mais tu sais, normalement, là, on fera pas la même chose.
On met tous les noms, là, dans le boulier. Mais, fait que ce serait qui votre préféré pour le fun, pour la discussion?
Pascal
on
Vincent.
Jase, là.
Moi, c'est Pascal Vincent.
Oui, toi, Alexandre?
Ah, mon Dieu, je suis vraiment embêté. Honnêtement, là, je les connais pas intimement pour te dire lequel. J'aurais un feeling pour André Tourigny, mais sans conviction plus que ça, là.
Martin, as-tu envie de te mouiller ou tu touches pas ça?
Ouais, ben, moi, je préférerais un gars qui a l'expérience chez les professionnels. Tu sais, en ce sens-là, des gars comme Vincent et Groulx, pour moi, ont une longueur d'avance par rapport aux autres à cause de leur métier. Mais je ne souhaiterais pas cette équipe-là à Pascal Vincent pour commencer sa carrière dans la Ligue nationale.
Ouais. Tu sais, parce que en même temps, il va se passer des affaires cet été. Là, je peux pas croire.
J'espère pour eux.
Je peux pas croire que ce soit Claude Julien ou un autre entraîneur que le gars va repartir avec des outils supplémentaires la saison prochaine.
Mais est-ce qu'on n'envoie pas le débat? Est-ce que quand on focus sur l'entraîneur,
on l'a pas fait souvent cette année, Martin. Je pense qu'il était temps qu'on l'aille la discussion quand même.
Oui. Non, mais c'est justifié de l'avoir. Mais oui. Est-ce qu'on n'envoie pas le débat à l'extérieur de ce qui devrait être, c'est-à-dire un débat de personnel, de profondeur d'organisation. Moi, je reviens, tu sais, hier, on a beaucoup parlé dans les médias des Rangers de New York, de la fameuse lettre ouverte du 8 février 2018. Puis il y a une phrase, moi, qui a flashé dans ma mémoire quand M. Gorton, le directeur général de l'équipe, dit « On doit, nous, les dirigeants des Rangers, on se regarde dans le miroir, puis on doit changer nos façons de faire. On doit être différent parce que ce qu'on essaye, ça marche pas. » Alors, tu sais, là, on est là, puis on discute d'un futur entraîneur, puis lui serait bon, lui moins bon, puis lui peut-être, puis le coach qui est là est plus bon, mais on n'entend pas de la haute direction après 8 ans comme on vient de vivre à ce moment-ci, puis des années très difficiles dans les 4 dernières, on n'entend pas... je pense qu'on pourrait regarder un petit peu ce qu'on fait, là, puis voir que ce qu'on fait, ça marche pas trop.
Ceci dit, je trouve que Marc Bergevin a été très, très, très critiqué cette semaine. Ça a probablement été sa pire semaine depuis qu'il est directeur général. Là, je trouve.
C'est parce que tu oublies vite l'année de l'attitude.
Oui, aussi. C'est vrai, OK, mais ça n'a pas été une bonne semaine.
Ex-écho.
Ça n'a vraiment pas été une bonne semaine. Je trouve la différence, c'est parce que beaucoup de gens ont fait le lien avec les Rangers hier, puis c'est vrai que leur reconstruction va plus vite. Ils ont un immense avantage que le Canadien n'a pas, c'est ils sont capables d'attirer des vedettes.
Ils ont attiré Panarin,
mais Trouba aussi, qui voulait être échangé.
Adam Fox.
Ouais. C'est trois joueurs qui, dans le Canadien, seraient probablement sur les premières paires de défenseurs et sur le premier trio. Là, ça accélère de façon spectaculaire une reconstruction.
Mais en même temps, ils viennent peut-être de gagner deux ans
sur leur reconstruction.
Mais Alexandre, en même temps, Jeff Gorton, là, il est allé devant l'agent de Panarin, il a fait un pitch, puis il est sorti de là avec un contrat signé.
Oui, non, mais c'est...
Oui, mais c'est plus facile des attirer à New York qu'à Montréal. Martin, d'ailleurs, à part Tavares, donne-moi un agent libre de calibre qui est venu au Canada dans les 15 dernières années.
Moi, je pense que Panarin est allé à New York pour deux raisons. Parce que, premièrement, c'est New York, puis deuxièmement, parce qu'on l'a très, 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 très bien payé. Mieux payé que n'importe quelle équipe était prête à mettre sur la table pour lui.
Mais je pense que c'est pour ça. Un gros critère, c'est parce que c'est New York, tu sais. Mais mettons que Dallas, peut-être Dallas, il serait allé, ça se dit, là. Mais tu sais, si Columbus, il avait réoffert 15 millions, puis que les Rangers, ils offrent 15, il aurait pris 15, je pense, chez les Rangers. Mais ils ont quand même une capacité d'attirer des joueurs vedettes qui est plus grande que le Canadien.
Mais la ville, c'est une chose, puis l'offre, c'est une chose, mais je pense qu'il faut aussi que tu aies quand même une organisation intéressante pour que le joueurs viennent. Puis c'est, j'avais posé la question l'été dernier à Dale Talon, quand justement il y avait toutes les rumeurs. C'était quelques jours, c'était au repêchage à Vancouver. Avec donc c'était Bobrovski, quelques jours avant les joueurs autonomes. J'avais posé la question parce qu'il y avait des rumeurs de Bobrovski, de Panarin, de tous les gros noms joueurs autonomes. Et il me dit, regarde, tu sais, oui, en Floride, on a les impôts pour la température, mais quand on perdait tout le temps puis qu'on n'était pas compétitif, les joueurs autonomes voulaient pas venir chez nous. Je veux dire, ils veulent venir
une
aussi.
Équipe gagnante, ça compte.
Oui, oui, la météo, oui, les impôts, oui, dans ce cas-ci, New York et l'attrait de New York. Mais si les Rangers de New York étaient dirigés par Eugene Melnick ou un fou furieux du genre, ben, non, ça, je pense pas que les joueurs autonomes se pitcheraient vers...
Ça, c'est clair, mais ultimement, les Rangers ont eu Panarin parce que, à travers la Ligue nationale, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui étaient prêtes à lui mettre autant d'argent sur la table. Parce qu'à un moment donné, quand t'as déjà des vedettes dans ton club, à Chicago, un peu partout, ça rentre plus, là. Alors, tandis qu'à New York, on avait, comme on dit chez nous, de l'argent pour le rentrer. Mais je reviens à ça, là. Monsieur Gorton est rentré dans ce bureau-là, puis il est sorti de là avec un contrat signé. Il est sorti avec un deal dans les mains.
11 642 857 $ par saison jusqu'en 2026.
Mais je reviens, tu sais, si Marc Bergevin avait offert, mettons, 12 millions à Tavares, Tavares voulait même pas négocier avec le Canadien. C'en était une méga star, ça, qui aurait pu venir, tu sais, éventuellement à Montréal. Mais Matt Duchene, il a quand même préféré d'aller à Nashville.
J'attends encore un nom qui a signé au Canada pour Tavares, qui est revenu dans sa ville natale, là. C'est quoi le nom qui a signé au Canada? Donc, le défi la même pour toutes les équipes canadiennes.
C'est pas Milan Lucic. Avec le recul, ça n'a pas été bon, mais Milan Lucic était un des gros noms de cette année-là, a été au Canada.
Il y a eu aussi, des joueurs de soutien, mais avec les Canucks, il y en a eu quelques-uns.
Oui. Puis t'as Louis Erickson qui était lui aussi un gros poisson cette année-là. Ça a pas, je le répète, ça n'a pas été des bonnes embauches avec le recul. Mais à ce moment-là, c'était les gros noms. Mais tu sais, bon, les Canucks, eux aussi, c'était un cas qui avait quand même beaucoup de place sur le...
Le Canadien a quand même re-signé Carey Price quand il s'en allait pour être joueur autonome aussi.
Capacité de rétention, c'est une chose, puis on peut en parler aussi dans
le
d'Ottawa, d'ailleurs.
Le défi des équipes est le même, je pense, pour pas mal toutes les équipes canadiennes. Ils ont un challenge supplémentaire. Puis je veux pas les...
Non, mais ça en est une...
Je pense que j'essaie de faire preuve de compréhension dans la difficulté d'améliorer ton équipe. Tu as moins d'avenues que d'autres équipes dans des marchés plus sexy. Puis encore là, l'usure des défaites puis des éliminations. S'il y en a qui trouvent que tu es un marché sexy, ben là, ils trouvent moins sexy qu'ils le trouvaient parce que ton équipe perd, puis ça déteint sur l'attitude de tout le monde.
Ah, t'as les impôts aussi. Ça en est une vraie raison, les impôts.
Mais il y a pas beaucoup de marchés sexy dans la Ligue nationale. Les marchés sexy deviennent vraiment sexy quand l'équipe gagne, l'équipe démontre de belles promesses de gagner.
Mais regarde ça, Martin, quelle est la meilleure équipe canadienne depuis, mettons, 93, la dernière Coupe canadienne, le Canadien, là, ça va faire 27 ans cette année. Il y a eu les Leafs sont allés en finale, les Canucks sont allés en finale.
Les Oilers sont allés en finale en
2006, je me suis trompé.
Si on faisait une moyenne, je pense que si on faisait une moyenne de victoires, depuis 1993, je pense, en tout cas, Vancouver, à l'œil comme ça, je pense que les Canucks de Vancouver, en termes de moyenne de victoire,
l'ère des Sedin, là,
seraient pas mal les premiers à cause de l'ère Luongo, des Sedin et compagnie. Mais en même temps, là, si vous voulez attirer des bons joueurs, faut que ça commence par des bons joueurs, une base de bons joueurs. Une base de bons joueurs, ça commence par du bon recrutement, par de bonnes décisions. Ça commence tout par là.
C'est ça que Bergevin dit en arrivant ici. C'est juste que le monde autour et lui ne l'ont pas fait. C'est ça pareil. Puis en plus de ça, c'est ça qui était bizarre, mais je reviendrai pas sur sa conférence de lundi. Fait que les gars...
En passant, messieurs, on est très forts. Les Canucks de Vancouver sont effectivement la meilleure équipe canadienne depuis 93.
Merci beaucoup.
De 541. Juste devant le Canadien à 540.
Mais je savais que c'est le Canadien figurait assez haut dans ce classement-là. Parce que si tu regardes les 10 dernières, ils sont allés deux fois en finale de conférence. Puis il y a juste... qui est allé en finale une fois? Vancouver dans ces 10 dernières années-là. Puis Ottawa en finale de conférence, pas en finale de coupe cette année, les 10 dernières.
Oui, c'est ça, exact.
Fait que Vancouver, les gars...
Mais au niveau de la Ligue nationale, par contre, les Canucks sont 16e depuis 93, donc c'est quand même bas.
Il n'y a aucun club canadien dans la première moitié.
Dans la première moitié, exact. Donc, ça va de pair.
Non, mais c'est un constat qu'il faut faire. Tu sais, quand je demandais l'autre jour, pensez-vous, Bergevin, c'est un nono. Tu sais, à un moment donné, il a essayé d'en amener. J'ose croire qu'il essaie d'en amener du monde. Puis des autres clubs aussi, Canolan va essayer d'en amener.
Ils vont faire plus d'argent à Jake Gardiner cette année que Jake Gardiner en a accepté quand même avec les Hurricanes.
Exact.
Beaucoup plus d'argent, là. 20% de plus.
Fait que ton coach doit composer avec ce qu'il y a puis tirer le meilleur de ce qu'il y a, parce que des fois, c'est pas ce que tu veux, mais c'est peut-être tout ce que le gars était capable d'amener ici.
C'est ce qui est difficile, je trouve, de l'ère Bergevin. Bon, on peut avoir le débat. Moi, je trouve qu'ils ont mal repêché.
Ben oui.
Mais ils ont eu de la difficulté à amener des joueurs autonomes de grande qualité aussi pour accélérer, là, je veux dire, pour retourner vite là, dans le loop. C'est, je veux dire, ils ont eu Alzner, ils ont Sherrod quand même, qui est une bonne acquisition.
Oui, Sherrod, c'est une bonne acquisition. Non, mais, OK,
pensons-y, Sherrod vient pas, là, c'était... qui joue à gauche demain, mettons?
Yanné Nénima, un retour au jeu.
En fait, c'est Brett Kulak, 24 minutes par match toute la saison.
Et même à ça, messieurs, dans les remontées des adversaires face aux Canadiens, M. Sherrod est un jeune homme très sympathique, très dédié et tout ça. Le seul joueur de la Ligue nationale qui s'est mis une clause pour être échangé que dans les équipes canadiennes, soit dit en passant.
Ah oui,
c'est ça. Oui, c'est le seul de la Ligue nationale ou à peu près qui a ça, là. Mais je ferme la parenthèse. Mais en même temps, Ben Sherrod, hier, sur un des buts importants, il échappe Kreider devant son gardien de but pendant que le jeune Fox pousse la rondelle gentiment derrière Carey Price. Alors, on est encore en train d'analyser un gars qui, oui, il a accepté de venir à Montréal, mais il est dans un contexte où il y a beaucoup trop d'action pour ce qu'il est capable d'en donner. C'est entre autres pour ça que l'équipe tourne en rond.
Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas dans la bonne chaise. Mm-hmm. Soyons francs. Ouais. Les joueurs du premier trio, je les aime bien, mais je suis pas sûr que ce serait tous les joueurs qui jouerait sur un premier trio dans un club qui aspire aux séries. Gallagher sûrement, les deux autres, je suis pas sûr non plus. Là,
probablement pas, effectivement.
Ouais, vous avez raison, les gars. Ce qui manque, c'est pas en bas, c'est en haut. Tu sais, c'est que tout le monde tombe dans bonne chaise. Puis là, t'aurais une équipe vraiment plus compétitive. Ah, c'est décourageant par moment. Je pense que le moment est venu d'aller se reposer de l'autre côté ou sur le côté sombre de la lune, messieurs. Peut-être que je vais y retrouver l'état-major du Canadien. Caché là. En pleine réflexion. Oh. C'était Sortie de zone. Merci beaucoup, M. McGuire, à Brossard.
Ça me fait plaisir. Merci
un bon
à
week-end.
Vous,
c'est le fun, Martin, depuis que tu participes. Je te dis à la prochaine.
Guillaume,
Alexandre, merci beaucoup. Maxime Paquette à la réalisation. Un gros merci. Bon week-end, tout le monde. Et Canadien Vegas demain? Alors...
Vegas.
Canadien
Hurricanes. Hurricanes. Pourquoi j'avais Vegas dans la tête?
Oui, Hurricanes.
Je pensais à Max.
Ben oui, Hurricanes quand même.
Salut tout le monde. Moi, on m'en va passer le week-end à Vegas, tiens. C'était Sortie de zone. Ciao!